SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urba et Cité Verte Europe, sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio.
Salut les amis, et oui, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est un lancement, on est en preview avec la nouvelle Radio des Territoires, Radio Territoria que vous connaissez depuis un moment, et on a lancé un nouveau média qui s'appelle Carbone Zéro, voilà, Carbone Zéro la radio, pour la transformation énergétique et le développement durable des territoires, parce que c'est de là que la vérité jaillira, si on peut dire les choses comme ça. Alors je vous fais le pitch, on va parler d'un sujet hyper important, famille monoparentale, désertification des centres-villes, vieillissement de la population, c'est un vrai sujet, avec une explosion en 2030 de nombre de personnes qui ont de plus de 65 ans, ça va être un vrai sujet sociologique. Les raisons ne manquent pas pour justifier la transformation des nouveaux modes d'habitat. Alors, si on y ajoute à cela le contexte sociologique des imprévus tels que l'essor massif du télétravail qui pousse à une volonté de réorganisation des foyers, comment sont-ils pris en considération? C'est de cela dont on va parler. Et surtout, comment allons-nous appréhender cette question de la densification urbaine avec les fractures territoriales, les inégalités territoriales, quand on voit qu'un exécutif avec sa tentation jacobine est abaissé de façon radicale, pour pas dire, comme certains maires le diraient, saigner les dotations des collectivités locales avec des transferts massifs de responsabilités. Seul problème, c'est qu'on n'y a pas forcément associé les recettes. C'est un vrai sujet pour les maires aujourd'hui. On peut même dire que la fonction d'un maire aujourd'hui, le mandat de maire, est presque un sacerdoce en soi. Voilà. On va essayer de rester positif, bien évidemment, sur des sujets, mais ne pas les éluder. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau quelqu'un qu'on connaît bien à Radio Imo, à Territoria et donc à Groupe Web Radio Édition. Il est le maire de Saint-Berthevin, président du réseau Procivis et vice-président de l'Union sociale pour l'habitat. Yannick Borde est avec nous.
Bonjour.
Comment ça va, Yannick ?
En pleine forme. Je cumule en plus pendant ces deux jours à la fois mon activité professionnelle et mon engagement d'élu. Donc, deux jours très riches, très denses.
Alors, je vais devoir vous poser, mon cher Yannick, vous le savez, mais vous me connaissez maintenant un peu, quelques questions politiques, parce que je ne peux pas m'y soustraire. On a quand même un scrutin qui devrait sortir à 15h, hein, me semble-t-il.
Qui est clos à 15h.
Allez, clos à 15h. Mmh. Est-ce qu'on a déjà des idées ou pas ?
Non. Moi, je n'ai pas d'informations, pas d'idées. Après, il y a deux candidatures, ce qui est un petit événement, la MF quand même, donc bon, faut le souligner. Voilà, donc on aura, je pense, la promulgation des résultats vers 17h, je crois que c'est
prévu. Alors, il faut rappeler que, bien évidemment, cette élection, on parle de l'élection à la succession de François Baroin,
oui,
qui est en poste depuis 2014, élu à la tête de l'Association des maires de France. Deux candidats, Philippe Laurent, le maire de Sceaux, sur une liste UDI, et David Linard, Les Républicains, maire de Cannes. On est bien d'accord ?
Exact.
Alors, vous avez à côté quelqu'un qu'on connaît aussi bien dans le métier, mais qui est surtout quelqu'un qui maîtrise parfaitement ces sujets autour, justement, de la sociologie. Et pour cause, il est sociologue de l'habitat. Alain Tripier est avec nous.
Bonjour.
Comment allez-vous, Alain ?
Je suis très heureux d'être là, parce que j'ai toujours grand plaisir à m'exprimer sur les problématiques du logement et de l'habitat.
Alors, vous êtes donc sociologue, président fondateur du cabinet Céréo. On dit Céréo.
Hein ? Oui, oui.
Voilà, Céréo. Alors, les questions, je l'ai dit en préambule, hein, dans l'édito, c'est des questions qui ne sont pas des questions simples à aborder. On peut même dire qu'il y a une vraie complexité. Quand on est un élu local, comme vous, Yannick, et en même temps un opérateur important avec un réseau, je crois 54, 57 sociétés au sein du réseau Procivis.
50 sociétés, 10 000 logements construits vendus par an, 60 000 logements sociaux gérés, 700 000 logements gérés en tant qu'administrateur de biens. Donc nous, on est le seul acteur, le seul réseau à être présent quasiment sur toute la chaîne du logement. Alors après, avec un peu de trou dans la raquette territorialement. Et une organisation hyper décentralisée. C'est-à-dire que nous, on est présent sur les 13 grandes métropoles, mais on est aussi présent sur les territoires un cran en dessous, on va dire, en termes de taille de population notamment.
Alors justement, c'est cette raison-là, je veux dire, qui vous pousse finalement à animer à la fois ce réseau et en même temps d'être dans une commune de moins de 10 000 habitants, me semble-t-il, hein, oui. Saint-Berthevin est moins de commune d'habitants. Finalement, vous êtes à la fois l'opérateur et celui qui est bénéficiaire justement de ces opérations. Et donc, c'est intéressant, votre fonction, parce qu'elle cultive cet ancrage territorial. Et j'allais dire, plus que jamais, il y a de vous qui savez ce qu'il faut dans le territoire, quoi, dans l'aménagement. Comment vous l'apprenez ? Alors, on va prendre, mettez cette casquette d'élu. Comment on aborde cette question complexe sur la taille, par exemple, de ce qu'on appelle, alors j'aime pas trop le terme ville intermédiaire ou ville moyenne, on va dire ville en devenir, qui est bien Saint-Berthevin comme d'autres villes, vous êtes dans la proximité de la ville de Laval, en Mayenne. Comment on aborde sereinement ce sujet-là ?
Alors d'abord, pense que la matière logement, elle est, c'est une matière complexe pour les élus. Moi, j'ai la chance de baigner dedans à titre professionnel, donc ça l'est un peu moins. Mais pour les élus locaux, quand vous êtes un jeune élu ou un nouvel élu, entre la programmation HLM, entre l'urbanisme, entre la ribambelle des documents d'urbanisme, du SRADET, au SCOT, au PLH, au PLUI, ah, oui. Voilà, donc il y a une appropriation de cette matière-là à acquérir pour les élus qui prend un peu de temps et qui est évidemment assez complexe. Après, moi, je considère que alors, chacun peut avoir sa position ou sa culture par rapport à ça, mais que le propre d'un élu, c'est de veiller bien évidemment à développer sa ville. Tout le monde ne partage pas complètement nécessairement ce terme-là aujourd'hui. On va peut-être y revenir tout à l'heure quand on parlera de densification acceptée, de constructibilité, etc. Mais on est dans un moment où d'abord il y a des grosses questions qui se posent sur l'aménagement du territoire, qu'il n'y a plus vraiment de politique d'aménagement du territoire aujourd'hui. Donc c'est un peu les élus locaux sur leur territoire qui font l'aménagement de leur propre territoire et ce qu'il y a autour. Et moi, je crois beaucoup à... Enfin, je commence à être un vieil élu, hein, parce que ça fait 19 ans que je suis maire, à la cohérence entre la stratégie de développement économique des territoires ou la situation économique des territoires et la problématique du logement. Moi, j'ai la chance d'être sur un secteur géographique qui est la grande région ouest, à titre professionnel, maire d'une commune sur la région des Pays de la Loire, territoire où il y a 5,5% de taux de chômage, où notre enjeu, c'est de faire venir des salariés. Et aujourd'hui, dans le développement économique, le frein, c'est je veux bien venir, mais pour être embauché, il me faut un logement. Donc on voit bien qu'il y a une vraie cohérence par rapport à ça et une difficulté. Ça, c'est un point. Et puis le deuxième point, c'est que quand on est élu local, on subit, entre guillemets, les évolutions de la société. J'avais parlé dans l'introduction, mais je laisserai mon voisin développer sur l'évolution de la composition des familles, sur un certain nombre de sujets de cette nature-là. Et que nous, en face, en tant que maire, on a tous les services. Donc, Saint-Berthevin, c'est une commune d'un peu moins de 8000 habitants. C'est une commune qui est éligible à la loi SRU, ce qui donne aussi un peu de matière dans le raisonnement. Et c'est une commune de première couronne d'une ville-centre et qui a la particularité d'avoir, je pense, aujourd'hui quasiment tous les services. Et sur la commune, il y a 5000 emplois, 5000 salariés qui travaillent sur notre ville. Parce qu'il y a à la fois des grandes zones commerciales du département de la Mayenne et un certain nombre d'entreprises qui ont leurs locaux. Donc on a besoin, nous, on subit d'abord les évolutions sociologiques. Quand il y a aujourd'hui l'éclatement des familles, le développement des familles monoparentales, etc. Et moi, j'avais fait faire une étude en 2016. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup changé depuis. À l'époque, on était autour de 7200 habitants. Sur une commune de notre taille, avec le desserrement familial, il faut 40 logements neufs pour maintenir la population. Entre le couple qui décède, il n'en reste plus qu'un dans le logement, les gens qui se séparent. Voilà. Et en face de ça, vous avez les écoles, vous avez les commerces, vous avez les équipements sportifs, socioculturels, tout ce que vous connaissez, qu'il faut ajuster. Vous avez la question des transports, vous avez toutes ces notions-là. Donc, moi, je pense qu'une commune comme la mienne, celle dont je suis maire, de par la qualité de ses services d'abord, elle a vocation à accueillir tout type de population. Voilà, moi je suis très très clair là-dessus. Elle a augmenté comme beaucoup de communes en matière de prix du logement. On achetait des terrains à bâtir pour 60 euros le mètre carré il y a 10 ans ou moins de 10 ans. Aujourd'hui on est au double. Voilà, donc elle subit aussi localement sa propre pression, on va dire, sur toutes ces questions-là. Mais le rôle des élus, c'est, je pense, de continuer d'assurer le développement des communes. Alors tout à l'heure, vous avez lancé la balle sur les questions des finances, on y reviendra peut-être, ou des recettes fiscales. Mais c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre services rendus ou services présents sur la commune, qui ne sont pas que des services publics d'ailleurs pour certains, et population accueillie. Et une commune comme Saint-Berthevin, de par son histoire, je dirais, a vocation à accueillir aujourd'hui des populations modestes comme des populations plus aisées.
Alain Trépied, vous qui êtes sociologue de l'habitat, c'est une drôle d'équation que doivent résoudre les élus locaux aujourd'hui, non ?
Moi, je pense que pour revenir à des basiques, non pas sociologiques, on va dire socio-économiques, il faut toujours garder en tête quatre paramètres de fond. Le premier paramètre, évidemment, c'est le niveau de revenu. Je parle des habitants ou des impétrants habitants. Le décile de revenu, parce que le revenu moyen n'a aucun sens, hein, c'est l'appartenance du ménage à on va dire, trois paquets de déciles de revenus. Les trois premiers qui sont les gens modestes, souvent en dessous du seuil de pauvreté, les classes moyennes au milieu, et puis les classes supérieures de revenus au-dessus.
Il est à combien le seuil de pauvreté aujourd'hui?
Alors le seuil de pauvreté,
on l'estime à combien?
Il est à 40% du revenu médian. C'est-à-dire, il est à 1000, aux alentours de 1000, en dessous de 1000, un petit peu en dessous de 1000 euros par mois. Mmh. Mais ça dépend de la composition du ménage aussi.
Hein. Oui, bien sûr, oui, d'accord. Mais enfin, ça reste quand même.
Mais si vous voulez, tous ces temps derniers, on n'arrête pas de parler de moyenne de revenus et tout ça, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment segmenter en fonction du niveau de revenus des gens. La deuxième chose qui est hyper importante quand on parle de logement et d'habitat, c'est la localisation dans l'aire urbaine. On sait que 94 ou 95% des Français vivent dans une aire d'attraction urbaine. C'est-à-dire que le rural pur, ça ne représente plus qu'à peu près 5% de la population. Monsieur, par exemple, à côté, sa commune, elle est dans une aire urbaine.
Donc, oui, oui.
Voilà. Et une aire urbaine, c'est quoi? C'est un centre, c'est une banlieue et c'est des communes périphériques. Et qui sont
qu'on appelle une agglomération.
Voilà, ça ouais. Fait alors
au sens étymologique.
Le terme officiel de l'INSEE maintenant c'est aire d'attraction.
Ouais, aire d'attraction.
Ça a changé de nom il y a pas longtemps, mais il faut bien voir que la myriade de communes périurbaines qui sont accrochées tout autour d'une aire d'attraction urbaine, c'est à la fois hyper recherché, mais ça pose aussi des tas de problèmes. Enfin, je pense que dans les EPCI, quand vous avez un nombre considérable de toutes petites communes, ça fait quand même un certain nombre de gens qui on voit au chapitre et qui ne sont, alors si on est pessimiste, on va dire qu'ils sont presque en concurrence les uns avec les autres et ça rend pas très facile la gestion de ces entités territoriales. La troisième variable extrêmement importante pour comprendre quelque chose à l'habitat et au logement, c'est évidemment la tranche d'âge. On ne vit pas de la même façon quand on a plus de 80 ans que quand on a moins de 30 ans. Et puis la quatrième variable dont vous avez déjà évoqué l'importance tout de suite, c'est évidemment la composition du ménage. C'est-à-dire qu'entre une famille monoparentale ou une personne isolée seule âgée, c'est pas vraiment la même chose par rapport à un ménage avec des enfants. Pour les premiers déciles de revenus, c'est pas la peine de faire de grands dessins. La grande problématique, c'est la difficulté de se loger, la difficulté d'assumer le coût du logement, qui est bon, une variable plus ou moins incompressible avec tout ce qui va autour. Et on sait très bien qu'on a un nombre considérable de ménages qui vivent dans des passoires énergétiques, qui vivent dans des logements insalubres, des logements surpeuplés, et c'est quelque chose qui sort beaucoup. Aujourd'hui, dans les dernières études qui ont été faites, on a notamment la dernière enquête INSEE sur les conditions de logement des Français, qui elle-même est plus ou moins tirée des enquêtes logement entre 2006 et 2013. On s'aperçoit qu'entre ces deux enquêtes, la base des logements collectifs a réduit en taille. C'est très important par rapport à ce qu'on va dire sur les évolutions actuelles. Elle a réduit en qualité. On a des logements plus petits. Les chambres sont plus petites entre le NL 2003 et le NL 2013, qui est quand même 2006 et 2013, qui est quand même complètement en dehors de l'évolution qu'on attend aujourd'hui.
Alors, Alain Tripier, je voudrais qu'on revienne, on va développer ce sujet. Aujourd'hui, il y en a certaines qui qualifient finalement, on a parlé d'ailleurs à l'USH, une vision presque anthropologique, une anthropologie urbaine nouvelle, avec une nouvelle façon d'habiter, d'appréhender l'espace. Mais je voudrais quand même revenir sur un point par rapport à ces nouveaux modes d'habitat, effectivement, et avoir votre éclairage. L'aménagement du territoire. Il faudra bien qu'un jour on décide de qui aménage le territoire. Si je reprends le dossier du rapport Rebsamen, nous étions avec lui il n'y a pas si longtemps pour parler de son rapport avec nos confrères du Figaro. 13 mesures énoncées dans son rapport, 2 mesures annoncées d'ailleurs, vous y étiez là, par Jean Castex. Or, quand vous voyez le PLF, le projet de loi de finances, on se rend compte, j'ai essayé de chercher, hein, c'est épais, hein, j'ai essayé de chercher, pour l'habitat, le logement, à part des prorogations plutôt positives. On a, bon, il y a le fameux Pinel Plus, hein, vous savez, qui est inscrit. Il y a une prorogation d'une année supplémentaire pour le PTZ, par exemple. On a parlé du 106 Bouvard, on a parlé du dispositif de Normandie, prorogé. On a vu que ça va même jusqu'à 2024. Mais toujours pas de décision majeure liée la cohésion du territoire, mais l'aménagement du territoire. Or, dans le rapport Rebsamen, il y a une mesure dans laquelle François Rebsamen dit il faudrait qu'on envisage un contrat avec l'État, les préfectures, pour que justement les élus locaux aient, par exemple, une fluidité au niveau du foncier, et voire même qu'on puisse co-produire ou co-construire avec les élus locaux. Ça ne verra pas le jour, ça.
Alors, plusieurs choses. La première, c'est que vous parlez du projet de loi de finances. Il faut aussi qu'on se dise aujourd'hui, je l'avais dit, on l'a déjà dit au congrès HLM, on est quand même dans une crise du logement où la situation entre la demande et l'offre, elle continue de s'écarter. Le président de la République actuelle avait parlé de choc de l'offre.
Bon, il y a un choc de... Oui. Mais c'est on a un choc inverse, oui.
C'est un contre-choc, je ne sais pas comment on l'appelle. Et donc, aujourd'hui, on a un vrai problème. Et ne rêvons pas. Autant, je pense que relancer la demande, quand il y a un problème de demande, avec les mesures que vous évoquez, l'allongement du PTZ ou un élargissement du PTZ ou tout un tas de sujets, on peut le faire de façon assez efficace et à court terme et assez rapide. Autant relancer l'offre, je ne crois pas une seule seconde, moi, au risque peut-être de décevoir ceux qui ont travaillé, aux mesures Rebsamen et à leur impact sur une offre, enfin une décongestion de l'offre dans un délai relativement court. Sur les propositions qui sont des contractualisations État-ville.
Plutôt pas mal. Plutôt bien. Non, mais l'idée est à creuser.
L'idée est à creuser. Moi qui suis élu local, des contractualisations, on en a quand même des tas sur tout un tas de sujets, divers et variés. Je me demande toujours comment on les challenge, je me demande toujours comment on les mesure, je me demande toujours comment on les actualise, comment on les corrige si on trouve qu'elles ne servent pas à grand-chose. Et je ne suis pas super optimiste quoi, par rapport à une position de cette nature-là.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire
alors ? C'est vrai que la question de la décentralisation de la politique d'habitat, à mon avis, elle est nécessaire. Après, il ne faut pas non plus tout refiler, parce que d'abord, dans mes propos introductifs tout à l'heure, j'évoquais la complexité de ce dossier logement. Donc les élus n'ont pas tous la capacité à acquérir tout de suite les enjeux qui peuvent tourner autour de tout ça. C'est quand même très compliqué. Mais il faut arriver quand même, dans un certain nombre de cas, à mon avis, arriver à décentraliser un peu les choses. Je vais prendre un seul exemple. On en a déjà parlé entre nous, Sylvain. Vous savez que c'est un peu notre dada des prochaines semaines ou des prochains mois. Nous, on considère par exemple que la question du zonage est une question qui infantilise un peu les raisonnements.
Bien sûr.
Et qui est totalement archaïque. Surtout que celui qu'on a aujourd'hui, il date pratiquement de 10 ans sans avoir beaucoup bougé. Et les territoires, ils ont bougé.
Mais on va droit vers sa suppression, normalement, dans la logique de
l'histoire. Je l'espère, mais quand on dit ça, faut pas non plus revenir au modèle d'avant où, par exemple, certains dispositifs étaient un peu open bar sur tout le territoire, qui n'est pas non plus la solution. Donc c'est un espèce de curseur un peu. Retenons les leçons de la période où c'était complètement ouvert, où il y a eu beaucoup de dérives. Retenons les leçons de la période actuelle où aujourd'hui on a un zonage qui ne correspond pas nécessairement à la dynamique économique des territoires et donc il y a peu d'acteurs sur des endroits où il y a des besoins. Moi, j'avais dit à Julien de Normandie, par exemple, quand il a décidé de supprimer le Pinel en zone B2 et de ne le maintenir que dans les zones économiques. Alors là, je vais me faire des ennemis à la FPI, je pense. Mais c'est pas grave. Moi, j'avais cru comprendre que quand on avait besoin de l'intervention de l'État, c'était là où le marché ne pouvait pas s'auto-réguler. Et en immobilier, on pourrait se dire quand même que dans les grandes métropoles, la dynamique des grandes métropoles, l'attractivité, tout ce qu'il y a autour, fait qu'on pourrait avoir une offre de logement qui naisse quasiment naturellement compte tenu de l'attractivité de ces territoires-là. Et au contraire, la politique, ça serait d'aller accompagner les territoires qui seraient, pour plein de raisons, un peu plus en souffrance. Bon, c'est pas le raisonnement qui est fait, il n'est pas du tout partagé aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il faut...
Non mais ce qui est intéressant, Yannick, pardon, je vous coupe, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, moi une chose qui me plaît beaucoup, mais c'est vrai que je vous connais bien, mais c'est que c'est prosaïque, c'est pragmatique. Il n'y a pas de réflexion politique derrière ce que vous venez de dire. Il y a une réflexion pratique. On est d'accord là-dessus ?
Oui, la question du logement quand même, un échange que j'ai eu il y a quelques jours avec un service de l'État, c'est aussi, ils nous disent, vous êtes bien gentils, vous les opérateurs, à nous dire effectivement que la politique ne convient pas, etc. Mais nous, ce qu'on impulse, on n'est que dans le rôle de l'impulse. C'est-à-dire que sur le terrain, ce n'est pas nous qui faisons. Nous, l'État, on n'est pas promoteur, on ne s'occupe pas des PLU, on ne s'occupe pas des PLH. Voilà. Donc, bon, moi, je ne suis pas certain que ce soit un argument suffisant. Mais redonnons dans ce cas-là un petit peu plus de pouvoir et d'autonomie sur les territoires.
Voilà.
Voilà. Et derrière tout ça, aujourd'hui, il y a nécessairement une question qui se pose. C'est la question de la fiscalité locale, qui a été quand même un peu malmenée ces derniers temps, où globalement, dans la répartition des recettes des collectivités locales, on est quand même passé d'un impôt d'autonomie à une compensation.
Alors, justement, Yannick, quand on interroge, il y a un maire sur deux qui nous dit... Il y a eu compensation à l'euro près. C'est vrai ou c'est faux, ça? Alors, vous, maire de Saint-Berthevin, quand on vous enlève la taxe d'habitation, est-ce qu'il y a une compensation à l'euro près?
Je vais y croire sur 2022, parce qu'on est en train de... C'est la première année, vraiment, compensation d'accord. complète. Donc, ça se présente à peu près pas trop mal, puisqu'on a donné à l'État, ou l'État a récupéré ce qu'on avait avant comme recette. Ils nous disent, je vous garantis ça. Mais une compensation, ça se démonte du jour au lendemain par une loi de finances. Et on a bien vu par le passé que toutes d'accord. les compensations qui avaient été annoncées, elles étaient...
Ça dure pas.
Mais oui. Ça peut ne pas durer. Mais je ne dis pas que ça durera pas, mais non, ça mais peut ne pas durer.
Il y a des exemples dans l'histoire qui ont fait et que... Mais objectivement, vous dites, oui, c'est vrai, il y a compensation. Parce que tous vos collègues ne disent pas la même chose.
Hein. J'ai l'impression que sur le démarrage, il va y avoir compensation. Mais là où ça devient schizophrène, un peu les raisonnements, c'est que... Et je pense qu'on a d'autres gros sujets sur la table. Je pense notamment à la question des valeurs locatives qui va nécessairement peut-être arriver, parce que ça fait 40 ans qu'on en parle. Mais bon, on nous dit que ça devrait arriver. Mais c'est un peu schizophrène, puisqu'on essaie de dire qu'il faut modifier les règles, mais il faut que personne ne perde, et que, si possible, personne ne gagne, ou ceux qui gagnent reversent à ceux qui perdent. Donc on monte des espèces de mécanismes qui fait que nous, dans notre prévision budgétaire et dans notre visibilité, dans notre prospective, ça devient quasiment impossible aujourd'hui à évoluer. Et moi, j'étais un opposant farouche de la suppression de la taxe d'habitation. Je considère qu'aujourd'hui, il y a deux risques dans les finances des collectivités locales. La première, c'est qu'il n'y a pratiquement plus, à part la taxe foncière, et on voit tout le débat qu'il y a sur les augmentations de taxes
bien
foncières,
sûr, bien sûr.
C'est le seul impôt à la main de la dynamique d'un territoire. Ça, c'est le problème, premier point. Et le deuxième point, c'est l'arrivée de la TVA sur notamment les départements et les régions, avec les grandes incertitudes. Parce qu'aujourd'hui, on va partir d'un socle assez bas, parce qu'on a la crise sanitaire, on a la crise économique, donc on va partir d'un seuil assez bas. Donc on peut se dire que les 2, 3, 4, 5 prochaines années, on aura peut-être des pourcentages de croissance, mais à un moment donné, on sait qu'il y aura des impacts.
Mais ce sera réversible si éventuellement il y a un changement de l'échiquier politique.
Je ne sais pas si ça sera vraiment réversible, s'il y a un changement de l'échiquier politique, parce que je ne sais pas si c'est possible.
Alain Tripier, vous qui êtes sociologue, vous qui avez le regard finalement de l'universitaire, de l'intellectuel autour de cela, non mais c'est intéressant. Ces modes d'habitat dont on parlait, des modifications sociologiques radicales ne peuvent être accompagnées que de politiques publiques. Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Évidemment. Il faut des guides.
Mais absolument.
Il faut des guides.
Mais quand vous voyez aujourd'hui que les ressources des collectivités locales... Je rappelle un chiffre. Il y a pratiquement plus de 600 000 élus locaux tous les jours qui bossent dans leur village, non rémunérés. Vous saviez ça?
Oui, je sais.
C'est énorme. Ça veut dire qu'être un élu local, c'est pas un job, non. C'est pas un métier qu'on choisit.
C'est d'abord un sacerdoce.
C'est un sacerdoce et un engagement. Moi, si je compare les indemnités que reçoit par exemple Yannick Borde en tant que maire de Saint-Barthevin, mais franchement, mais qu'il redevienne promoteur. Évidemment. Demain, c'est-à-dire que c'est un choix, parce qu'on l'appelle la nuit. Hein. On appelle Yannick Borde la nuit parce qu'il y a la poubelle au milieu de la rue, parce que le chien du voisin. C'est vrai, là, faut le dire. Ça.
Dans une commune de Matin, c'est un petit peu moins vrai, on va dire.
Mais
franchi un seuil, on va dire.
Non, mais on est d'accord.
Les élus ruraux et des communes de moins de 5000.
Ce que je veux dire, c'est que vous avez une responsabilité. Non, mais disons-le. Vous avez une responsabilité pénale, vous avez une responsabilité civile et professionnelle. On vous est engagé pour tout, finalement, avec une reconnaissance assez faible. Il y a quelque chose qui rend schizophrène. Comment vous le regardez, ce paysage, finalement, avec ces contradictions? Ou ces contraintes absolues, comme dirait l'autre?
Oui, c'est vraiment des contraintes absolues. C'est aussi, moi, ce qui m'a toujours effrayé, c'est le millefeuille administratif et territorial. On empile.
C'est de l'inflation normative.
Et finalement, bon, alors il y a eu... Peut-être que le point d'orgue là-dessus, ça a été le Grand Paris, quoi. Je crois que c'est la pire chose qu'on ait pu faire. On n'a supprimé aucun échelon, on en a recollé un au-dessus. Bon, là, il n'y a pas pire. Mais bon, c'est un problème de métropole, de la plus grande métropole, c'est un peu différent. Mais si vous voulez, bon, en deux mots comme en mille, les maires sont dans une situation qui est absolument effrayante. En plus... On leur raconte des on raconte à tout le monde. Je vais juste faire une petite focale sur l'étalement urbain. Bon, L'étalement urbain, il existe, il est là. Je vous renvoie tous à ce qu'écrit Jean-Marc Hoffner, qui est le patron de l'agence d'urbanisme de Bordeaux, qui a fait un petit pamphlet il n'y a pas longtemps, dont j'ai oublié le nom, qui dit « mais arrêtez de nous casser les pieds en disant qu'on risque l'étalement urbain. L'étalement urbain, il est fait, maintenant il faut le gérer. Et il faut gérer ces parties de villes ou de communes qui sont plus ou moins anarchiques, plus ou moins mal foutues, et ainsi de suite. Mais on est dans une démarche qui doit être positive par rapport à une situation qui est, encore une fois, n'oublions pas qu'on a 95% de la population qui vit dans une aire d'attraction urbaine. Donc tout ça, c'est, et je reviens sur mon truc, hein, centre, banlieue, périurbain, c'est la clé de toutes les problématiques que les maires rencontrent, notamment dans le fonctionnement des EPCI, sur lequel on va peut-être pas se... On va peut-être pas s'apesantir, mais...
Qu'est-ce qu'on fait des centres-bourgs, des petites villes?
Alors,
Est-ce qu'il y a un espoir? J'utilise un mot fort. Un espoir, une résurgence, une émergence. On le voit, pas forcément de façon systémique par rapport au mouvement de population, mais on voit qu'il y a des courbes démographiques qui se sont inversées dans certains petites villes, et c'est vrai, oui, qui regagnent des habitants. Et quand on voit la qualité de vie, moi j'ai la chance de voyager toutes les semaines dans toutes les villes de France... Je trouve qu'on a à portée de main, finalement, un paradis. Pourquoi s'entasse-t-on dans les banlieues alors que, moi, je prends simplement je prends la ville de Lens, la ville de Lens qui est réputée être une ville sinistrée. Vous avez une ancienne ville de garnison, 60% de logements sociaux. Je prends même la ville de Troyes qui a quasiment les mêmes pourcentages. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a les mairies pour soutenir, effectivement. On est à 1 heure de Paris, 1h30, 2h, max. On n'est pas loin de Saint-Berthevin, ici. On pourrait aller vivre à Laval. On pourrait essayer d'étendre le territoire. Qu'est-ce qui fait défaut pour rendre égalitaire ces éléments-là?
Ce qui fait défaut, c'est que les cœurs de ville, d'ailleurs...
Bah à Lyon, bah à Bordeaux,
l'action,
à Paris...
L'action cœur de ville pour les villes moyennes, j'espère que ça va réussir et que ça va booster les choses.
Mais ça part plutôt bien.
Ça part pas mal. Ouais. On est dans une situation où, encore une fois, les périphéries, les périurbains gentrifiés qui sont autour de ces villes ont profité... De l'urbanisme commercial, ont profité de l'aménagement routier, ont profité d'un tas de trucs au détriment des centres-villes, des cœurs de ville qui ont perdu leur attrait parce qu'ils ont d'abord perdu leur commerce. Il ne faut pas oublier que quand on se promène dans beaucoup de villes moyennes de France, on a des dents creuses là, un peu partout dans les rues et on n'a pas envie d'y aller.
Mais ça, c'est du potentiel à y dire foncier si on consent que la ville doit se bâtir sur elle-même.
Voilà. Donc
parce que ça aussi, c'est un avenir. Parce que,
On est sûr que la ville se bâtit sur elle-même.
Oui, mais Alain, il y a aussi une nouvelle chose, une nouvelle donne, d'ailleurs, Yannick maîtrise très bien. Il est opérateur immobilier. C'est la circulaire ZAN qui, aujourd'hui, maintenant, a clairement donné la donne. C'est zéro artificialisation nette. Vous n'avez pas le choix aujourd'hui. Vous devez transformer le bâti ancien. Vous devez travailler sur des friches industrielles. D'ailleurs, il y a un fonds friche qui existe justement pour travailler sur ces sujets-là. Il y a aussi les quartiers gares qui sont des quartiers extrêmement intéressants à requalifier et à retravailler. Yannick, tous ces éléments-là dans les nouveaux modes d'habitat, ce sont des défis à relever. Il n'y a que le politique qui peut y arriver. Ce ne sont pas les promoteurs privés, le secteur privé qui va s'approprier ces éléments. On est d'accord ou pas?
Les promoteurs doivent se l'approprier, à mon avis, parce que demain, l'acteur, ça sera l'acteur...
Mais il faut qu'il y ait une direction politique.
Oui, il faut qu'il y ait une direction politique, mais la direction politique, moi, je vais être assez optimiste, je pense qu'on commence à l'avoir. C'est-à-dire, d'abord, la reconquête des centres-villes, il y a Action Cœur de Ville, il y a Petite Ville de Demain, je pense que les maires se rendent compte aussi que de construire en périphérie et d'avoir une désertification de son centre-bourg ou de son centre-ville, c'est quelque chose, aujourd'hui, qui n'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et une vraie volonté aujourd'hui. Il y a eu des dispositifs. Tout à l'heure, je critiquais le quinquennat actuel sur certains sujets. Action Cœur de Ville, reconnaissons.
Vous êtes dans le plan Saint-Berthevin, il y a ou pas?
Laval et Cœur de Ville.
La
ville de Laval est dans le dispositif Action Cœur de Ville.
Vous en bénéficiez, vous?
On en bénéficie. Et puis surtout, ça repose des questions, donc ça remobilise sur le sujet. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a un sujet majeur, moi, qui, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais sur lequel les élus doivent beaucoup progresser. Désolé de leur donner l'impression peut-être de leur donner des leçons ou des conseils. C'est qu'aujourd'hui, il y a une très faible culture sur la notion du foncier. Le foncier, c'est la matière première. Le foncier bâti ou le foncier non bâti, peu importe. Mais on peut toujours faire des plans de restructuration de ville, de réaménagement de quartier, de je ne sais quoi. Si on n'a pas à un moment donné une culture de la maîtrise foncière, qui est un sujet complexe, coûteux, lourd, encore on a de la chance aujourd'hui que ça ne coûte pas très cher en portage, Mais la culture foncière et la culture de la maîtrise foncière, elle est essentielle. Et aujourd'hui, cette culture-là, elle est insuffisante. Alors, il y a des outils, il y a des EPF, pas beaucoup qui fonctionnent quand même de façon extraordinaire. Il y a des acteurs qui sont prêts aussi à jouer le jeu de ce foncier. Mais si on veut, c'est de toute façon quelque chose qui n'est pas à l'échelle d'un mandat d'élu. C'est beaucoup plus long. Ça, c'est peut-être un sujet aussi qui fait que ça se passe pas nécessairement facilement. C'est recomposer une ville, réutiliser des structures. On a par exemple aujourd'hui la possibilité d'avoir des foncières au commerce. On a quand même. Je pense que les outils ils existent, quasi tous. Il n'en manque pas beaucoup. Après, on est dans un temps très long, mécaniquement.
Oui, mais la temporalité. Oui, mais bien.
Qui n'est pas la temporalité d'un mandat politique.
Mais
si vous êtes élu pour je ne vais pas caricaturer, mais si quand le premier jour où vous enfilez l'écharpe, c'est de vous dire comment je suis réélu dans 6 ans, vous n'allez pas faire grand-chose.
Donc, en général, vous savez ce qu'on dit, un an avant les élections, on arrête de mettre des grues dans les. Bon, je caricature, mais on arrête de construire, on arrive aux affaires, pendant un an, on prend le pouls de la population, etc. Ce qui fait que la fenêtre de tir pour les promoteurs, elle est finalement très courte.
Elle est effectivement très courte, et dans un rythme d'élus, si au bout de la deuxième année, vous n'avez pas quasiment topé tous les projets que vous avez envie de faire sur votre mandat, ils ne se font pas. Donc c'est ce rythme-là, mais on ne va pas rallonger le mandat. Bon, je pense pas que ça soit une piste. Donc, il faut trouver la formule, il faut que chacun s'engage sur son programme et sur la concrétisation de tout ça. Donc, on est mécaniquement sur le logement sur un temps plus long qu'un mandat d'élu.
Dernier sujet sur lequel je voudrais qu'on cadre bien, justement, c'est on a vu que les nouveaux modes d'habitat, effectivement, commencent à émerger avec une façon, j'allais dire une vision sociologique très différente. Famille monoparentale qui a fait exploser la demande de logement, puisque effectivement, c'est un vrai sujet. Gros sujet d'ailleurs dans les métropoles, des zones dites tendues, Bordeaux, Lyon, Paris, gros sujet. Gros sujet aussi sur la vacance, vous savez qu'il y a 3,85 millions de logements vacants en France, mais je vous donne juste le chiffre par rapport à, vous prenez l'Île-de-France, c'est 272 000. Mais en fait, le taux par habitant est le plus faible, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un vrai sujet. On a à la fois 3 millions de logements vacants, dont certains qui sont même vraiment en déshérence, dans lequel il y a un risque de désinvestissement, notamment de certains bailleurs, parce qu'on a même interrogé, on a fait une enquête auprès de 500 bailleurs, ils préfèrent laisser vide plutôt que de faire des travaux qu'il faut, et in fine, à vendre.
Vous avez aussi des bailleurs qui... J'ai travaillé très longtemps pour l'ANA, vous avez aussi des tas de bailleurs qui n'ont pas les moyens de mettre aux normes leur propriété.
Qu'est-ce qu'on fait avec les lois justement sur le nouveau DPE 2025, 2028, 2034
On a un outil qui marche pas mal, l'ANA ça fonctionne pas mal, ils ont fait de gros progrès au fil des années, il faut s'en servir. Et c'est là qu'on voit l'impact de la puissance publique, on met de l'argent dans l'ANA et on redistribue et on a comme ça... la certitude, en tout cas, de rectifier tout un tas de choses qui sont dramatiques. Vous avez, même dans Paris, vous avez du parc bâti qui n'est pas aux normes, qui est impossible à louer et dont les bailleurs n'ont pas un sou pour faire les travaux.
Ah, c'est clair.
Bon, on le sait bien, tout ça. Donc, il faut évidemment une impulsion des pouvoirs publics avec des outils qui existent.
Ces outils, ça serait par exemple, Yannick, si vous êtes politique, vous achetez le bâti.
Je partage les commentaires sur les propriétaires bailleurs. Reconnaissons quand même à ce gouvernement, depuis 2 ans, l'effort important sur les propriétaires occupants, qui fait qu'aujourd'hui, globalement, les propriétaires occupants modestes sont quasiment aidés, intégralement.
L'ANA a beaucoup travaillé là-dessus. Enfin préoccupé. Alors, il faut savoir naviguer quand même dans la jungle des subventions et ainsi de suite, mais on s'est enfin préoccupé du reste à charge. Quand vous avez 15 000 euros de travaux pour changer le chauffage, on va dire, et que vous avez 5 000 euros de reste à charge...
Oui, mais ils ont trouvé une solution. Le prêt avance mutation.
Oui, je sais, mais ça a mis beaucoup de temps.
Sauf qu'il n'est pas encore distribué. Alors, le prêt avance, juste pour expliquer à nos amis, le prêt avance mutation, c'est un prêt qui est consenti pour financer, vous savez, le reste à charge. Imaginons, vous allez sur MaPrimeRénov', avec les aides locales, il y en a pour 20 000 euros, on vous donne, on va dire 10 000 euros. Il vous reste 10 000 euros de reste à charge. Vous avez un prêt, on vous finance ce prêt. Et vous ne le remboursez le principal que si vous revendez l'appartement, même si c'est 30 ans après. C'est bien.
Ça, c'est très bien.
Il y a une inscription d'hypothèque. C'est-à-dire qu'en fait, on hypothèque le bien, ce qui fait que vous n'êtes même obligé, même si vous avez des petits revenus, on inscrira l'hypothèque, c'est-à-dire qu'en fait, on garantira avec la valeur de votre bien, quelle qu'en soit la valeur, pour vous financer. C'est une super idée, ça.
C'est excellent. Tout à fait excellent.
C'est vrai.
Espérons que ça marche, parce qu'il y avait d'autres dispositifs qui étaient des super idées, je pense à l'éco-PTZ, mais qui n'ont pas franchement marché. Donc,
ouais, ça, c'est moins qu'on puisse dire.
Donc, voilà, donc, c'est pour ça quand je dis qu'on a pratiquement...
Mais le préventilisation, il est simple à mettre
en œuvre. Sur le principe, il est assez facile à comprendre et assez simple à mettre en œuvre. Mais moi, c'est pour ça que je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on a aujourd'hui quasiment tous les outils, hein, à quelque chose près. On les a tous, à condition de bien les emboîter, qu'ils fonctionnent correctement.
Mais c'est ça qui est paradoxal.
Oui, mais
il manque 1 million de logements dans ce pays. Il faudrait en construire 500 000 pour absorber d'ailleurs le manque, il me semble, dans les 10 prochaines années. Vous avez vu les statistiques de cette année ? C'est une catastrophe.
Oui, parce que c'est une matière complexe et qu'il y a beaucoup d'intervenants. Et puis après, il y a...
On est presque à 17% de moins par rapport à 2019. Alors, je ne prends pas 2020, ce n'est pas un mauvais exemple, la comparaison. Mais enfin, vous avez bien vu, les PC aujourd'hui ne sortent pas. Et puis, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de fustiger les maires en disant « ils ne signent pas, ce sont des maires peureux, ce sont des maires frileux, etc. » Dire que les maires ne sont pas bâtisseurs, franchement, c'est faux. On en a interrogé 250 et c'est sans appel. Une écrasante majorité souhaite construire. Le problème, c'est que il faut leur donner les moyens. Moi, si je vais à Saint-Berthevin et je dis « voilà, je vais construire 200 appartements », je caricature, ça serait vraiment beaucoup. Bon, vous allez me dire, je suis désolé, mais moi, il faut une école, il faut des places de parking, il me faut des espaces verts, il me faut une crèche, etc. Mais vous avez raison, mais ça, il faut le financer.
Mais ça se planifie, c'est-à-dire que moi, sur le mandat, par exemple, c'est 450 logements neufs, normalement, si tout va bien. Donc, il y en a une grande partie qui est en cours, donc je serais sans doute pas très...
Oui, mais, pour une commune de 8500 habitants.
De 8000 habitants. Donc voilà, donc on y est, on tient le rythme et il y a une demande. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'on est sur ce rythme-là. Et sur le mandat précédent, je pense qu'on avait fini sur 350 sur le mandat. Donc on pousse. Et il faut. Et il y a une mixité entre l'appartement et la maison individuelle, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Il y avait très peu d'appartements qui se faisaient.
Les habitants de Laval qui viennent chez vous ?
Non, les habitants du territoire qui se relogent. C'est l'éclatement familial, c'est du logement social pour une partie. Je suis une commune et SRU, donc on est dans la seuil des 20. Donc moi,
vous êtes à combien en pourcentage ?
On est à 19,6.
Ah, donc, vous êtes moins.
Il m'en manque 4 à chaque fois que l'État m'envoie le décompte, il m'en manque 4 ou 5.
Vous êtes pas bon là.
C'est tellement faible que je suis exonéré de payer la petite
taxe.
Combien
on dit ça ? On dit vous êtes carencé, c'est ça ?
Ah non, je suis pas carencé.
Non.
Mais voilà.
C'est
donc,
quoi, c'est 25 hein, la loi
Israël. Alors c'est 20 pour nous, on est dans une dérogation à 20. Ah, 20 on est sur un marché d'accord. Classé détendu. Donc,
mais vous en manque pas beaucoup. Hein.
Il manque 4 à chaque fois que je reçois le décompte des services de l'État. Donc c'est pas très grave, on va y arriver. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a la question des équipements derrière. Mais tout ça, ça se planifie. C'est-à-dire il n'est pas question d'aller sortir quelques centaines de logements si derrière, on sait que ça entraîne, si on est déjà à saturation sur ces écoles. Enfin, voilà, il y a une planification à faire. Cette planification, aujourd'hui, la seule chose, à mon avis, qu'il faut arriver à faire évoluer aussi, je pense que suivant les territoires, ça se fait de plus en plus, c'est que ça ne se fait plus à la commune, ce raisonnement-là, nécessairement.
Bien sûr.
Il doit se faire, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'aire urbaine, c'est-à-dire la ville-centre.
Oui.
Nous, on est dans l'attraction d'une ville-centre qui est Laval. On est 4-5 communes de première couronne, il y a des communes plus rurales, vous parliez tout à l'heure du nombre de communes, on est 34, il y a la plus petite à 200 habitants, la plus grande 50 000.
Bah oui.
Bon voilà, il faut arriver à conjuguer tout ça, et moi je peux pas être isolé dans mon coin et dire moi je vais faire 450 logements, je vais pas m'occuper des autres, etc. Si j'en fais 450, c'est parce qu'ils s'en fait peut-être un petit peu moins sur ce mandat-là, sur une voisine.
Voilà, il nous reste 3 minutes pour conclure, il y a beaucoup de sujets là qu'on n'a pas encore abordés, mais je me ferai un plaisir de vous réinviter Alain avec Yannick. Yannick est très passionné par ce qu'il fait quand même. Alors justement, dernière question. On va faire un peu de prospective et de rester résolument constructif. On est à l'aube d'un débat présidentiel important et avec une élection qui est très particulière cette année, hein, qui est très 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 particulière. Très très particulière. Déjà, il y a l'élection de l'AMF. Là, on va avoir le scrutin. Est-ce qu'on a déjà le scrutin de... On a le scrutin du président de l'AMF ou pas ? Non, pas encore. Bon, il y a deux candidats qui se présentent. Hein, Philippe Laurent, le maire de Sceaux, UDI, et David Linard, LR. Ok. Vous me permettez cette question, Yannick ?
Je la vois venir.
Pour qui avez-vous voté ?
J'ai voté pour David Linard. Parce que alors, je ne le connaissais pas il y a quelques semaines et quelques mois. Par contre, je l'ai beaucoup vu, entendu, un peu lu, parce qu'il a produit quelques documents, notamment sur la culture, ce qui est assez rare qu'un élu, qu'un maire produise un document sur la vie culturelle et la politique culturelle des territoires. Et j'ai trouvé que c'était un maire sans le connaître. Et moi, je suis plutôt politiquement plus proche de l'UDI que de Godelaire, hein, très clairement. J'ai été encarté à l'UDI Borloo, je l'insiste bien, je n'ai pas suivi après. J'ai trouvé que c'était un maire qui était très pragmatique, très terrain. Très proche de Stravit, très passionné par ce qu'il faisait, et un peu nouvelle génération aussi, je l'avoue. J'ai fait ce choix.
Alain Tripier, vous avez deux maires qui se sont présentés. Vous avez un maire qui s'appelle Philippe Laurent UDI, qui est un maire consensuel. Il l'écrit d'ailleurs, hein, il dit consensualité. Oui. Et vous avez un David Linard, vous l'avez écrit, vous l'avez lu aussi, hein, Yannick, et vous l'avez entendu, qui est très offensif. Oui. Et on qualifie l'un de dire finalement l'AME va devenir un peu le contre-pouvoir, dans une espèce de contre-pouvoir. Bon, c'est peut-être ça c'est les journalistes qui aiment bien écrire ce genre de choses. Et puis on a effectivement un maire consensuel. Le sociologue que vous êtes, quand vous voyez le débat présidentiel et qu'on voit que dans les contenus du débat actuel, il y a zéro pour le logement. Mais quand je dis zéro, c'est zéro.
Absolument.
Rien.
Il n'y a pas pour le logement.
Rien. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra attendre qu'on ait les gilets jaunes du logement pour bouger un peu dans ce pays ou pas? Je caricature, mais franchement, il y a un sujet là.
Non, mais le phénomène gilets jaunes incluait les problématiques du logement.
Oui, indirectement.
Évidemment, quand vous avez un revenu faible et que vous avez des dépenses contraintes considérables, dont le logement est la plus importante, il y avait des gros soucis de ce côté-là, on le sait bien. Alors, c'est vrai que ça a été atténué parce que beaucoup de gilets jaunes étaient en zone rurale, avec des maisons individuelles de famille, souvent, qui n'avaient pas eu à acheter, parce que c'est la ruralité qui est comme ça. Mais il n'empêche que le problème, il est fondamental, encore une fois, pour tout un tas de tranches de la société. Juste un mot sur la complexité aujourd'hui du collectif en zone urbaine dense, d'où les délires qu'on nous raconte aujourd'hui sur la désertion des grandes métropoles, ce qui est faux. Hein, on est dans une... Mais il n'empêche que quand vous avez deux enfants en bas âge, que vous avez passé 55 jours de confinement dans 50 mètres carrés, avec deux adultes travaillant dans ces 50 mètres carrés, on voit bien qu'il y a un problème.
Ah, mais c'est clair.
Ça existe, ça a existé, et ça a changé un certain nombre de trucs. Et je reprends juste une phrase de mon ami Philippe Moati, qui travaille dans un truc qui s'appelle l'Obsoco, et qui travaille notamment pour l'ADEME beaucoup. Il dit, le Covid, c'est une tension vers des modes de vie par l'intention... qui recherche l'intensification des relations sociales, l'ancrage territorial, la réalisation personnelle et la conquête d'une plus grande autonomie. Tout ça définissant un bien-être, idéalisé. Tout ça, c'est hyper important. Ça a explosé avec le Covid. On est dans une situation aujourd'hui où le balancier télétravail a changé beaucoup de choses. On va revenir un peu plus au milieu, mais de toute façon, vous avez des entreprises, prenez Orange par exemple, que je connais bien. Chez Orange, pendant la pandémie, on était à 80% en télétravail. Et aujourd'hui, on négocie pour que les gens viennent 2 jours par semaine au bureau ou 3 jours par semaine au bureau. On sait que ce phénomène-là est un phénomène pérenne, notamment dans les grandes entreprises.
Oui, phénomène pérenne. Mais il y a quand même quelque chose qui a donné un effet, on va dire, un peu pendulaire au dispositif. C'est qu'on s'est rendu compte aussi que pour des questions de lien social... et de rencontre avec l'autre, de l'altérité, de la présence physique. Avec Yannick, on a fait beaucoup de choses à distance, et quand on s'est retrouvé à l'USH, on était super contents.
Ça fait plaisir, mais évidemment.
Et quand on s'est retrouvé, d'ailleurs, avec tous les membres, tous les directeurs des sociétés, dans un endroit magnifique, on a partagé le verre de l'amitié, on s'est retrouvé, c'était sans appel. Tu te rappelles, Yannick?
Il
y avait quelque chose d'important. C'est intéressant, d'ailleurs, à quel point la nature humaine reprend ses droits aussi.
Vous avez un phénomène qui est très intéressant, notamment en France, mais dans différents pays européens, notamment aux Pays-Bas, où ils sont souvent très en avance sur ces problématiques, où on transforme les locaux d'entreprise avec des espaces conviviaux, avec de nouvelles salles de réunion beaucoup plus grandes, beaucoup plus confortables.
Pour recréer aussi un environnement.
Pour recréer de la vie sociale dans l'entreprise.
Alors j'aimerais qu'on en parle pendant des heures, mais effectivement, je suis obligé de couper le truc. Mais on se reverra, parce que c'est toujours une rencontre à épisode. Voilà, un grand merci à vous, Alain Tripier, sociologue de l'habitat, président fondateur du cabinet CREO. Merci Yannick Borde, maire de Saint-Berthevin, président de ProCivis et vice-président de l'Union sociale pour l'habitat. On se revoit très très vite pour la suite des événements. Avec les débats politiques qui s'annoncent, je peux vous dire qu'on va les voir beaucoup à la radio et aussi à la télé, pourquoi pas. Merci.
Le SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urba et Cité Verte Europe, sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio.